19h17, on passe au sport. Avec vous, Jérôme Val, bonsoir.
Bonsoir Yves.
Et pour commencer, la Ligue 1 de football, qui n'a pas encore totalement livré son verdict pour cette saison. Mais ce soir, c'est déjà l'heure des récompenses pour les joueurs et les entraîneurs.
Avec la cérémonie des trophées de l'UNFP, c'est un peu le festival de Cannes du foot français. Cérémonie qui se déroule dans le prestigieux pavillon d'Armenonville, dans le bois de Boulogne à Paris. Et vous y êtes pour France Inter, Martin Bartoletti. Bonsoir.
Bonsoir Jérôme.
Alors Martin, la grande question, c'est qui va succéder à Neymar comme meilleur joueur? Alors on pense évidemment à un favori, son partenaire au PSG, le club champion de France, Kylian Mbappé.
Eh oui, pas beaucoup de suspense, hein, puisqu'à seulement 20 ans, Kylian Mbappé devrait succéder à son coéquipier brésilien. Neymar est bien nommé ce soir, mais trop souvent blessé cette année. Hatem Ben Arfa, vainqueur de la Coupe de France avec Rennes, ou encore Nicolas Pépé de Lille auront beaucoup de mal à éclipser le prodige parisien. Hier soir, par exemple, Mbappé s'est offert encore un doublé face à Dijon. Il en est à 32 buts en championnat. Le titre de meilleur buteur d'Europe s'est en revanche éloigné. Lionel Messi culmine à 36 réalisations. Mais il reste une journée de Ligue 1 aux Parisiens qui devra donc signer un quadruplé pour au moins égaler l'Argentin. C'est beaucoup plus indécis en revanche pour le trophée UNFP de meilleur espoir. Ismaïl Assar avec Rennes, le Lyonnais Oussem Aouar dans le viseur des grands clubs européens sont favoris. Mais Jonathan Ikoné, très régulier avec Lille cette saison, ne volerait pas non plus cette récompense.
Alors il y a les stars, les espoirs, mais est-ce qu'il peut y avoir une révélation qui sorte un peu du lot ce soir?
Alors ce ne serait pas vraiment un séisme, mais Christophe Galtier pourrait bien s'emparer du trophée de meilleur entraîneur. Le technicien lillois est donné favori face à Thomas Tuchel, champion de France avec le PSG. L'entraîneur de Lille a fait des prouesses cette saison pour permettre à son équipe d'être un très séduisant dauphin des Parisiens. La vraie surprise pourrait en revanche venir de l'étranger, 4 champions du monde et Karim Benzema se dispute le titre de meilleur français évoluant en dehors de l'Hexagone. Face à Griezmann, Kanté ou Pogba, Hugo Lloris, le gardien des Bleus, pourrait l'emporter. Le portier de Tottenham a été l'un des grands acteurs de la qualification du club londonien en finale de Ligue des Champions.
Merci Martin Bartoletti en direct depuis le Bois de Boulogne à Paris pour cette cérémonie.
Et on n'oublie pas Jérôme que dans cette cérémonie, on récompensera aussi la meilleure joueuse.
Et parmi les nommés, sans surprise, il y a 4 Lyonnaises qui sont rentrées de Hongrie avec un nouveau titre européen, l'OL. Vainqueur de Barcelone hier en finale de la Ligue des Champions sur un large score 4-1. Et vous y étiez, Cédric Guillou. Bonsoir.
Bonsoir, Jérôme.
Alors, il y a eu la victoire hier, la fête la nuit dernière, on l'imagine. Et maintenant, place à une Coupe du Monde pour les internationales et pour conclure une saison en beauté.
Mais on rappelle que 7 joueuses lyonnaises ont été retenues dans la liste de Corinne Diacre. Alors, pour que leur saison soit pleinement réussie, après le triplé obtenu avec leur club, on rappelle, hein, Coupe de France, Championnat et Ligue des Champions, et bien les internationales lyonnaises veulent briller lors de la Coupe du Monde avec l'équipe de France, l'attaquante Eugénie Le Sommer.
Oui, c'est sûr que maintenant il y a la Coupe du Monde, la saison n'est pas terminée. Après, là, on va bien profiter et puis on aura le temps de se remettre en mode Coupe du Monde mardi quand on ira à Clairefontaine.
Et pendant que les Lyonnaises atomisaient hier soir les Espagnols en finale de cette Ligue des Champions, le reste de la délégation tricolore travaillait d'arrache-pied à Clairefontaine et c'est une situation qui est un petit peu étrange, reconnaît Eugénie Le Sommer.
Oui, c'est vrai que c'est un peu spécial cette année parce que certaines ont déjà commencé leur préparation pour la Coupe du Monde et nous, on était encore focus sur la Ligue des Champions. Mais voilà, on va les retrouver avec beaucoup de joie et on va être déterminés à aller le plus loin possible.
Eugénie Le Sommer et les Lyonnaises qui vont rejoindre Clairefontaine mardi afin de préparer elles aussi la Coupe du Monde féminine. On le rappelle, Jérôme, ça débutera le 7 juin pour l'équipe de France.
Et ça approche et ce sera face à la Corée du Sud. Merci Cédric Guillou.
Le top 14 de rugby, il ne reste plus qu'une seule journée pour distribuer les bons et les mauvais points.
Et ce dimanche, on a eu droit à un duel très spectaculaire entre deux prétendants aux places qualificatives pour la phase finale. C'est Montpellier qui a eu le dernier mot face au Stade français. Victoire 42-25. Montpellier qui a même réussi l'exploit d'aller arracher un bonus offensif à l'ultime seconde. Le MHR remonte à la 6e place alors qu'il était largement distancé il y a quelques semaines. Incroyable remontada, puisque c'est à la mode, salué par le pilier montpelliérain Yvan Ouattremez.
Aujourd'hui, on est 6e. Est-ce que vous y croyez, vous, qu'on était 6e? Personne. J'espère que ça va continuer. On va partir à Clermont, ça va piquer. Ça va piquer grave, mais on va le préparer. Personne ne croyait en nous. Je ne sais pas ce qui se passera à la fin, mais ce qu'on a fait, c'est juste énorme. Ça prouve bien que le MHR aujourd'hui, c'est une grande équipe. C'est vraiment une grande équipe. Et j'en suis sûr que dans les années à venir, ou j'espère cette année, ils gagneront quelque chose. Voilà.
En revanche, c'est terminé pour le Stade français qui ne peut plus se qualifier. C'était pourtant l'objectif pour la nouvelle direction du club. Malgré tout, l'entraîneur des Avants, Peter De Villiers, veut relativiser cet échec.
On aurait aimé être dans les 6, mais pour une première année, construction, reconstruction, un groupe avec beaucoup de jeunes, un groupe avec des joueurs plus âgés qui ont dû montrer beaucoup de motivation pour s'entraîner à une intensité beaucoup plus haut qu'avant, je pense que c'est positif. Je pense qu'on a eu, des moments difficiles aussi, avec des choses hors terrain qui étaient un peu chaud, et je pense que le groupe a quand même répondu présent dans toutes ces situations-là. Il y a une âme dans cette équipe.
Et puis cet après-midi, Toulouse a montré qu'il était plus que jamais le patron de ce top 14. Le leader a battu l'Union Bordeaux-Bègles 43 à 36, 11 essais dans ce match. Et ce soir, une rencontre qui compte pour du beurre, Toulon face à Clermont. Ce sera quand même les adieux de Mathieu Bastaro au public du Stade Mayol. Bastaro qui ira jouer à New York en décembre prochain après la Coupe du Monde. En Pro D2, le beau parcours de Vannes s'est arrêté. Les Bretons qui visaient une accession dans l'élite pour la première fois de leur histoire ont été battus par Brive 40 à 20 en demi-finale. Les brévistes retrouveront Bayonne en finale dans une semaine. Le vainqueur sera promu en top 14. Le perdant jouera un barrage. Pas de réussite pour les pilotes français ce dimanche sur le circuit Bugatti du Mans à l'occasion du Grand Prix de France Moto.
Et oui, l'épreuve qui compte pour le championnat du monde a été remportée par Marc Marquez. Nouvelle démonstration de force de l'Espagnol sur le bitume sartois.
Marquez s'était déjà imposé l'an passé. Le quintuple champion du monde accentue son avance au classement général. A noter d'ailleurs, Yves, que son frère Alex s'est lui imposé dans la catégorie de Moto 2. Les Français en revanche n'ont rien pu faire, notamment Fabio Quartararo, parti de trop loin sur la grille de départ, mais le prodige de Nice a quand même réussi à faire une remontée spectaculaire pour finir à la 8e place.
C'était une course incroyable, très, très physique, j'ai donné vraiment tout ce que j'avais, mais malheureusement, en début de course, on a fait une erreur au départ, j'ai failli tomber au deuxième virage. J'ai juste fait une erreur, j'ai voulu pousser encore un peu plus et malheureusement, c'est pas passé. J'ai failli rentrer dans ma vrille, donc j'ai freiné un peu plus, j'ai perdu l'avant. Et j'avais vraiment du mal à passer. C'est-à-dire tout le monde se mettait pas en plein milieu, mais tout le monde essayait de doubler. Et j'arrivais pas vraiment à me positionner en accélération, à me mettre vraiment côte à côte pour essayer de tenter quelque chose. Donc j'ai dû tenter quelque chose, on va dire, entre guillemets suicide pour passer ma brique. J'ai vraiment fait une de mes premières grosses frayeurs avec une MotoGP. Donc voilà, je pense que c'était mieux de finir 8e que de tomber au deuxième virage.
Ça promet à une semaine de Roland-Garros. Raphaël Nadal a remporté le Masters 1000 de Rome face à Novak Djokovic. Victoire en 3-7, 6-0, 4-6, 6-1.
Allez, un baptême maintenant sur France Inter, le baptême d'un géant des mers qui a pour parrain un grand aventurier de l'extrême.
Le géant des mers, c'est le trimaran tout neuf du navigateur Thomas Coville, le premier à avoir fait un tour du monde en solitaire à la voile en moins de 50 jours. Et le parrain, c'est Mike Horn, l'explorateur suisse très médiatique. Il était présent cet après-midi au Sable d'Olonne où ce bateau a été baptisé. Mike Horn est plutôt connu pour des expéditions à terre ou sur de petites embarcations. Mais pour Thomas Coville, adepte lui aussi des défis hors normes, ce choix a été naturel.
Moi, je souffre plus de solitude quand je rentre à terre. Parce que sur l'eau, je ne souffre jamais de solitude. Et j'ai souffert de ça, de ne pas pouvoir finalement en parler ou en discuter. Et tu t'aperçois qu'à un moment donné, tu crées ce que j'ai appelé le cercle des gens qui m'inspirent. Et il y a des gens comme Michel Serres, un philosophe, ou il y a des gens comme Jacques Gamblin, et puis il y a des gens comme Mike Horn. Finalement, quand tu converses avec eux, ils ont la même émotion, ils ont trouvé leur voix, comme on parlait. Ils ont trouvé leur singularité, et lui, il est vraiment dans cette singularité qui est fondamentalement mentale. Son regard par rapport au monde correspond effectivement à ce que j'avais envie d'exprimer et de lui proposer de venir faire un tour du monde avec nous sur ce bateau. Je le vois très bien dans l'équipe, quasiment la bannette qui est là, je le vois bien dedans, quoi. C'est le bateau, il est fait pour lui, quoi. Et je pense que ça peut être un bon élément supplémentaire pour que ça marche bien.
Lui est un navigateur inconnu, mais son exploit mérite d'être salué. Le dernier concurrent de la Golden Globe Race, un tour du monde à l'ancienne, sans moyens modernes de navigation, remporté en janvier dernier, on vous en avait parlé, par le vétéran français Jean-Luc Vandenhede. Eh bien, ce dernier concurrent va enfin arriver dans la soirée au Sable d'Olonne. Le Finlandais Tapio Lehtinen aura donc passé plus de 10 mois en mer.
Et on termine cet Intersport, Jérôme, par une page d'histoire et la reconnaissance d'un destin incroyable, celui du nageur français Alfred Nakache.
Déporté à Auschwitz lors de la Seconde Guerre mondiale, rescapé de la Shoah et un sportif au palmarès très riche. Et 35 ans après sa mort, Alfred Nakache est entré ce week-end au Hall of Fame de la natation, le panthéon de la discipline, cérémonie qui s'est déroulée à Fort Lauderdale en Floride, en présence de son arrière-petit-neveu Laurent Benayoun, très ému de cette reconnaissance internationale.
C'est une reconnaissance qui arrive tard, mais c'est la reconnaissance du monde de la natation qui récompense à la fois un nageur extraordinaire qu'on a peu connu parce que ça commence à dater, hein. C'est les années 30 et 40 et un peu plus tard, mais c'est surtout le parcours de vie qui est récompensé dans la catégorie pionnier. Ça veut dire que son parcours de vie, les camps de concentration, le fait d'être revenu, d'avoir gagné, au-delà du nageur qui était déjà un grand champion, c'est tout ça, je pense, qui est couronné. Moi, je l'ai assez peu connu, puisque il est mort en 83, j'avais à peine 12 ans. Mais l'histoire, on la connaissait. Il ne parlait jamais des camps, mais on savait que c'était un grand champion, que c'était un grand monsieur. Et le fait que maintenant, effectivement, les médias s'intéressent à cette histoire qui est extraordinaire au sens littéral du terme, ça fait quelque chose. Moi, je pense beaucoup à ma mère, qui s'est beaucoup démenée depuis des années pour que la piscine de Toulouse porte son nom, qui a collecté les archives. Elle s'est battue pour la mémoire, tout comme le frère d'Alfred Nakache, le plus jeune frère, qui est toujours vivant. C'est à eux que je pense, à toute la famille aussi, mais à eux en particulier, qui se battent depuis des années pour que cette mémoire rejaillisse.
Laurent Benayoun, joué aux États-Unis par Marius Cassoli. Alfred Nakache est le 9e nageur français à inscrire son nom au Hall of Fame de la natation.
C'était le journal des sports de Jérôme Val.